Merci d'écouter Fréquence Mistral. C'est l'heure de retrouver Force 7, un magazine proposé, préparé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, Claire Boucher, députée des Hautes-Alpes, évoque le projet de loi contre le dérèglement climatique qui veut faire entrer l'écologie dans nos vies. Laura Giraud l'a interviewée. Une convention de partenariat actée entre Groupama et Initiative Alpes-Provence, nous entendrons les signataires dans un instant. À Digne, l'association Jalmalve poursuit ses activités. Elle propose une écoute pour les personnes en fin de vie ou endeuillées. Odile Frison a interviewé sa présidente. Rencontre à Sisteron avec la RPD, une association qui vient en aide aux familles de personnes disparues. Manosque relance son passe-tourisme, un dispositif qui profitera aux touristes et aux commerçants. Explications et interviews dans un instant. Une loi pour faire entrer l'écologie dans nos vies.
Mobilité, logement, agriculture ou encore comportement, les parlementaires visent la neutralité carbone à court et moyen terme. Et c'est une procédure accélérée qui va concerner ce projet de loi de lutte contre le dérèglement climatique, avec un premier examen le 4 mai. La députée des Hautes-Alpes, Claire Boucher, répond aux questions de Laura Giraud sur ce sujet.
Claire Boucher, vous êtes députée des Hautes-Alpes. Vous luttez contre le dérèglement climatique.
Alors, je lutte pas contre le dérèglement climatique toute seule. En fait, j'ai voulu suivre de très près le projet de loi qui porte lutte. Alors, son titre, c'est « Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience ». Face à ces effets. Donc c'est un projet de loi qui passe en procédure accélérée. Alors ça veut dire que il faut l'avoir visionné au bout de tant de temps. Tout était un peu chronométré, y compris les interventions de tous les partis ou groupes politiques, on va dire. Donc je connaissais pas ça et c'est une bonne expérience.
Vous avez défendu tout d'abord un abonnement pour favoriser le développement des bornes de rechargement sur le territoire.
Oui.
Il y en a déjà pas mal.
C'était, je sais plus à quel niveau du projet de loi, mais effectivement, en travaillant sur ce sujet, je me suis rendu compte que le département des Hautes-Alpes était le département le mieux doté en bornes, parce que c'est vrai qu'il y a eu de gros efforts de fait. Et donc, je crois qu'on a 26 bornes pour 100 000 habitants, alors que dans certains secteurs, il y en a à peine 10, notamment, si je me souviens bien, la Haute-Vienne ou des départements comme ça. Alors, ce que j'ai vous dire. Donc, globalement, c'est en fait ce projet de loi, il vise à faire rentrer l'écologie dans nos vies. Et c'est une belle formule, peut-être, mais moi, je vois ça très intéressant parce que c'est important pour les jeunes. Donc, ça va rentrer dans l'éducation au niveau des programmes des enfants, de la maternelle jusqu'à haut niveau. Et il paraît intéressant parce que nous, dans le département, je pense que les enfants sont assez sensibles à ça, les parents sont assez sensibles, donc leur apprennent certaines choses, mais dans les grandes villes dans d'autres départements, c'est moins évident. Donc, ça me paraît vraiment bien. Et ce qui me paraît aussi très bien, c'est le fait d'aider à vivre ce que les gens vivent dans des logements mieux isolés. Donc il y a un gros plan par rapport à ça, et y compris les gens qui auront peu de moyens seront encore plus aidés. Et ce qui me paraît bien aussi, c'est qu'il va y avoir un service au niveau national qui va prendre en charge toutes les demandes pour faire en sorte qu'on dépense moins d'énergie pour chauffer nos habitations.
Également sur le transport où vous êtes mobilisé, il y a toujours le vélo que vous soutenez, c'est une mobilité aussi pour l'environnement.
C'est ça. Ce qui me paraît bien, c'est qu'il y a eu une décision pour faire en sorte que d'aider les gens à acheter des vélos, y compris à distance électrique, à hauteur de 75% du montant de l'achat. Alors, c'est vrai que c'est un projet de loi, il faut encore que ça passe au Sénat, peut-être qu'ils vont amender certaines choses, mais après ça revient à l'Assemblée nationale. Mais le vote annuel est prévu le 4 mai. Donc, vous voyez, tout est vraiment en procédure accélérée et je pense que ça va avancer dans le bon sens.
L'objectif est vraiment de diminuer cet impact carbone sur notre territoire.
Absolument. Oui, l'objectif, c'est de créer la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire que le carbone qu'on émet, effectivement, le carbone est absorbé par l'élément, y compris les terrains agricoles. Donc, du coup, il y a une décision de ne plus bétonner le sol, de faire en sorte que les grandes surfaces ne soient plus possibles, parce qu'il y en a déjà beaucoup. Et donc, pour faire en sorte que le sol absorbe le carbone, y compris la forêt. Donc, il y a aussi des éléments par rapport à la forêt. Sachant que ce qui est prévu aussi, c'est que l'État s'engage, bon exemple, pour acheter des matériaux ou rentrer dans leur cahier des charges quand il y a une action publique, qu'il y a un marché public, faire en sorte que les matériaux soient issus de nos forêts, si c'est du bois, etc., etc. Voilà. Ce qui est prévu aussi, c'est qu'il y a un effort important au niveau du transport ferroviaire, si bien donc prix des billets de train, notamment des TER, soit réduit, qu'il y ait de plus en plus des petites lignes qui étaient fermées, qu'elles soient ouvertes, et qu'elles soient ouvertes aussi aux fret, parce qu'on avait complètement rayé de notre système le fret ferroviaire, et ben voilà, maintenant on se rend compte que c'était important et qu'il y avait de plus en plus de camions sur nos routes, c'était pas le bon plan, quoi.
L'initiative Alpes-Provence reçoit le soutien de Groupama.
Ce mardi, Sisteron a accueilli la signature d'une convention de partenariat entre Groupama Méditerranée et Initiative Alpes-Provence, avec pour principal axe maintenir l'entrepreneuriat sur tous les territoires afin de soutenir l'économie locale. Dans les locaux de Groupama Sisteron, c'est un chèque de 3000 euros qui a été remis par l'agence Groupama Méditerranée à Initiative Alpes-Provence. Les explications sur ce partenariat avec Jean-François Gonidec, qui préside la plateforme Initiative Alpes-Provence ainsi que la structure régionale, mais d'abord Patrick Fioravasti, président de la Fédération des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes de Groupama, interview croisée au micro de Chris Alessandri.
Nous avons un partenariat avec donc les plateformes initiatives. Donc aujourd'hui, c'est Initiative Alpes-Provence, qui est une évolution de petites plateformes qui existaient avant. Bon, Sisteron, c'est parce que c'est notre base, on va dire, institutionnelle. Donc moi, je suis souvent ici. C'est entre les deux départements, donc c'est relativement pratique et symbolique aussi, puisque la fédération comporte les deux départements alpins. Cette rencontre, c'est bien entendu une augmentation du soutien que nous apportons donc à la plateforme Initiative, parce que Groupama partage tout à fait les valeurs de ces plateformes, enfin de cette association, c'est une association, hein. Donc pour bien entendu développer nos territoires, nous sommes un acteur majeur de nos territoires ruraux, on va dire, et on a besoin de ce genre d'association pour faire vivre nos territoires, tout simplement. On est partenaire historique avec Plateforme Initiative, et bien sûr ça nous paraît évident de perdurer ce partenariat, parce qu'il est nécessaire pour nos territoires et pour la survie de nos territoires.
Oui, comme nous l'avons dit, en fait, Groupama et le réseau Initiative, le réseau Initiative c'est 214 associations en France, ont un partenariat d'abord de longue durée et très actif. Vous savez en fait qu'on a des enjeux importants dans les mois à venir liés à la sortie de la crise Covid, et on est vraiment ravis que régionalement en fait on ait pu avoir en fait cette augmentation d'aide, puisque ça va nous aider en sortie de crise, aller vers en fait le soutien bien sûr aux entreprises qui auront besoin de nous à la sortie, mais aussi en fait à la nouvelle création d'activités, puisqu'on sait que cette sortie de crise va se caractériser par de l'arrivée sur nos territoires de personnes, mais aussi par des projets de conversion professionnelle qui vont nécessiter notre soutien. Donc voilà, un grand merci en fait à Groupama pour nous aider dans cette mission. Une mission bien sûr de soutien aux entrepreneurs, mais aussi une mission d'aide publique, hein, avec nos financeurs publics, qu'ils soient l'Europe, qu'ils soient l'État, qu'ils soient la région, qu'ils soient en fait les EPCI, avec une idée de soutenir nos zones rurales, hein, fortement, et puis de sortir aussi, de soutenir nos cœurs de ville qui vont être en face de ces conversions importantes à faire liées aux nouveaux modes de commercialisation, aux nouveaux modes de consommation qui ont émergé suite à toute cette période qu'on vient de connaître. Vraiment un grand merci à Groupama pour ce soutien actif et puis pour cette reconnaissance aussi de notre réseau. C'est un réseau de bénévoles, hein, 3500 bénévoles en région sud, 2170 sur le sud du 05 et sur les 04. Des effets importants, hein, puisque on a prêté l'année dernière 7,5 millions, ou du moins sur les trois dernières années, 7,5 millions sur notre département du 04 et le sud 05. On prête bien sûr beaucoup plus sur la région PACA, à peu près 120 millions, mais on aide énormément d'entrepreneurs, hein, environ en fait 3 000 sur le 04 et sur le 05, environ en fait 40 à 50 000 sur la région. Voilà.
Cette volonté donc d'enracinement local dont vous parlez, dans le contexte actuel, de quelle façon elle va rapidement se concrétiser dans les jours à venir, dans les mois à venir?
Alors clairement, on aide énormément avec des prêts, hein, qui ont été construits spécifiquement dans la crise. Donc on a fait une grosse action avec la région et les EPCI sur des prêts à taux zéro, hein, ce qu'on appelait les prêts Covid résistance. On est en train aujourd'hui d'orienter, de flécher différentes aides d'État, d'Europe et de la région sur les publics jeunes d'abord, sur les publics qui sont dans des zones difficiles, en particulier sur les zones QPV dans les villes, là avec des aides directes. Et puis on est en train de faire des actions fortes sur des programmes d'État, en particulier sur Ma Petite Ville de Demain, avec des réimplantations dans les cœurs de ville de commerçants, hein. Ce sont les programmes qu'on appelle Ma Boutique à l'essai. Et enfin, on essaye de créer en fait des pépinières d'entreprise, hein, avec des actions autour d'implantation de lieux communs dans les villes. On en a une aujourd'hui à Digne, hein. On va en décliner un certain nombre d'autres dans le département 04 et 05. On essaye de créer cette émulation et cet accompagnement qui est vraiment, vraiment majeur et important à la sortie de cette crise.
La volonté de Groupama, cap sur emploi également.
Ah ben, cap sur l'emploi et la création, parce que bien sûr, c'est indispensable dans nos territoires. L'initiative apporte un soutien et une aide au monde agricole. Alors là, je reprends un peu ma casquette agricole, puisque c'est mon métier quand même. Et Groupama est une OPA agricole à la base, ne l'oublions pas, parce que l'agriculture, le soutien à l'agriculture est impératif. On l'a vu, la crise a montré l'importance de l'agriculture, de l'autonomie alimentaire, donc dans nos territoires et de l'entretien du territoire. Il faut pas oublier cette partie-là aussi et je suis très content que la plateforme puisse aussi aller en aide aux jeunes agriculteurs, qui est à mon sens très important pour nos territoires ruraux, bien entendu, c'est une évidence.
Oui, on s'inscrit d'ailleurs dans les enjeux, hein. Bien entendu, aujourd'hui, créer une entreprise de commerce ou créer en fait de l'artisanat ou créer en fait une activité agricole, ça doit s'inscrire en fait forcément dans les enjeux, hein. Et les enjeux pour nous, ils se caractérisent aussi avec de l'aide importante à tout ce qui est digitalisation des commerces. Puisqu'on sait que les commerces en particulier de centre-ville traditionnels sont en face de cet enjeu. Mais ça se traduit aussi par toute de l'aide à la conversion environnementale. Et là, on touche toutes les activités, hein, parce que il n'y aura pas de pérennité, en fait, ou il y aura une pérennité, on va de façon très positive, de nos activités à long terme, que si, en fait, elles s'inscrivent dans ces enjeux. Hein. C'est des enjeux autour du transport, c'est des enjeux autour de l'utilisation du plastique, c'est des enjeux autour, en fait, des entrants, en fait, en agriculture, etc. On essaye aussi, en fait, dans ces créations, de créer, en fait, de l'émulation, de créer, en fait, de l'envie, de créer aussi de la prise de conscience autour, en fait, de cet enjeu. On soutient et on aide et on fait réfléchir aussi nos entrepreneurs autour, en fait, de ces grands enjeux sociétaux.
Jeanne Malve soutient les personnes en fin de vie ou endeuillées.
C'est une association d'écoute et de soutien à des moments difficiles et pénibles. Jeanne Malve signifie « jusqu'à la mort, accompagner la vie ». 6 nouveaux bénévoles viennent étoffer l'équipe dinoise dont les permanences devraient reprendre prochainement au centre des Michel. Au micro d'Odile Frison, la présidente Annie Pegolotti explique les missions de l'association si nécessaires en cette période de crise sanitaire et de détresse humaine.
Nous sommes toujours à l'écoute et toujours présents. Et malheureusement, comme nous ne pouvons pas accéder à les bâtiments que nous prête la mairie, entre autres des salles au centre des Michel, donc nous procédons par téléphone. Et heureusement, maintenant, vous allez pouvoir donner nos coordonnées, ce qui fait qu'on peut nous appeler. Donc nous, au niveau de tout public, nous écoutons des personnes endeuillées, des personnes qui accompagnent des personnes en fin de vie ou qui ont besoin de renseignements sur l'association. Par contre, au niveau des accompagnements, nous avons repris et nous sommes donc présents à l'EHPAD de Thouars, de Notre-Dame-du-Bourg, de Saint-Vincent, à domicile, au Cousson, à petite dose encore parce que bien sûr nos bénévoles attendent d'être couverts par la vaccination pour pouvoir commencer, mais certains l'ont été et ont pu recommencer. Entre autres, on est 2 accompagnants qui avons bénéficié de la vaccination au Lavandine, puisque nous, c'est là que nous faisions aussi des accompagnements.
Donc quand même beaucoup d'accompagnements.
Oui, on a eu pas mal de chiffres malgré tout, parce que même pendant la période de confinement, on téléphonait aux résidents que nous suivions, on prenait des nouvelles auprès de leur famille. Quelqu'un qu'on allait voir une fois par semaine, bon, on l'appelait tous les 2-3 jours. On envoyait des messages, des cartes postales. Donc on a été bien sûr moins présents que les autres années, mais on a pu maintenir une certaine activité. Et quand nous sommes revenus, bien écoutez, les résidents et les directeurs d'établissement étaient contents de nous revoir, ce qui nous a fait plaisir.
Vous intervenez donc auprès des personnes en fin de vie ?
En fin de vie, mais aussi âgées, puisque par définition, quand on est âgé, on est normalement plus près de la fin de vie. Des personnes assez isolées, gravement malades. Après, on peut écouter aussi leur famille et personnes endeuillées. Et donc, on peut nous joindre au 04 92 32 11 01. Ou par messagerie à Jalmav, tout en jusqu'à la vie accompagner la mort, donc jalmav04@wanadoo.fr.
Donc ça, ce sont des accompagnements téléphoniques qui sont gratuits, tous.
Bah oui.
Là, donc, vous avez repris les visites dans ces structures avec l'obligation d'être vacciné.
C'est-à-dire que nous, la fédération, donc nous faisons partie d'une grande fédération Jalmav, on peut aller consulter leur site qui est très riche. La fédération, bien sûr, nous a dit de ne pas culpabiliser les bénévoles qui ne voudraient pas accompagner dans cette période de pandémie. Et c'est vrai que nous, nos effectifs étaient déjà pas très jeunes, donc bon, on a exhorté à prendre soin de nous. Notre formule est que pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Donc, on a priorisé la vaccination avant de retourner faire de l'écoute en présentiel. Par contre, on est toujours accessible au téléphone et nous est arrivé à un moment où le confinement n'était pas strict, de recevoir les personnes, ben, par exemple à la boîte aux biscuits ou dans un bar. On a continué à fonctionner avec des groupes en petits comités dans des locaux privés à 4 ou 5 avec des masques.
Alors j'imagine que vous avez subi la grande détresse de la part des personnes qui n'ont pas pu voir leurs aînés partir.
On en a été témoin. Oui. On a eu des conversations téléphoniques, des personnes nous appelaient. Pas tant que ça. Nous, on pensait être plus touchés, plus appelés par rapport au deuil, etc. On en a fait beaucoup l'écho dans nos lettres. Bon, on sait qu'on est à l'écoute maintenant. Mais quelquefois, quand les personnes savent qu'elles peuvent parler, mais déjà, ça, quelque part, c'est une réassurance et elle ne passe pas tout le temps à l'acte. Mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'écouter des personnes troublées par ça, y compris par le manque de visite dans les établissements ou en milieu hospitalier. Ça a été très difficile. Ça. D'ailleurs, il y a une loi qui, dans ma dernière lettre, là, qui va partir. Nous y faisons référence. Comment faire? Parce que bon, on comprend très bien que dans les hôpitaux, il ne faut pas que la pandémie s'aggrave par trop de visites. Mais en même temps, devant la détresse des personnes, comment faire? Quelles solutions trouver? Est-ce qu'il faut les habiller comme des chirurgiens pour qu'ils puissent quand même au moins avoir un minimum de contact avec des personnes malades ou en fin de vie? Certains chefs d'établissement ont su faire quand même. Hein, mais bon, à tellement petite dose que la culpabilité, le deuil a été quand même plus difficile. Nous, on est dans la défense de la loi de Léonetti Kleps qui préconise la position entre l'acharnement et l'euthanasie pour laquelle nous ne sommes pas très favorables, même si on comprend certaines demandes. Mais ce n'est pas notre discussion, mais nous, on est un petit peu plus dans l'anticipation, plus avec la rédaction des directives anticipées, avec le fait de parler de la mort, quand tout va bien. On dit maintenant, il ne faut pas en parler, mais sinon, on se dit, il vaut mieux envisager sereinement certaines choses quand on n'est même pas très âgé, même en bonne santé, pour écrire ce qu'on voudrait ou ce qu'on ne voudrait pas. Notre position est qu'on ne veut pas s'acharner mais, et que les soins palliatifs répondent à énormément de demandes et quand la personne n'est pas isolée, qu'elle est bien accompagnée, ben souvent les quelques heures de gagner, c'est toujours ça. C'est ce qu'on a pu constater maintenant. Bon, on ne juge pas.
Est-ce que vos bénévoles sont toujours motivés, blindés? C'est pas évident.
Alors, on est formés, mais c'est vrai qu'il y a la formation pour ça, la formation oui. De base, la formation continue, le groupe de parole mensuel, donc il y en a 10 dans l'année. C'est quand même une ressource importante pour pouvoir déposer les difficultés qu'on peut avoir. Puis on a une oreille attentive, bien sûr, auprès des bénévoles, que ce soit la formatrice Michèle Mouton, moi-même, la vice-présidente, la coordinatrice Régine Delasto, qui est la coordinatrice des bénévoles. Donc on a toujours cette oreille pour être là en cas de difficulté, mais la formation prépare bien à ça et on n'en fait pas trop non plus, on fait ce dont on se sent capable. Mais souvent, c'est une lapalissade de dire qu'on reçoit beaucoup, je veux dire, les personnes quand elles nous accueillent, qu'elles sont contentes, qui sont sereines, qui dans nos yeux voient qu'elles font toujours partie de la société, qu'elles ont toute leur dignité, l'indignité pour nous ça n'existe pas. Comme dit Marie Denzel dans un de ses livres, nous voulons tous mourir dans la dignité. Et je recommande aussi le livre « C'est ainsi que meurent les hommes » de monsieur le docteur Léonetti, qui est vraiment dans l'humanité à 100%. Et c'est vrai que les restrictions de visite, etc., ça manquait quand même d'humanité pour les personnes qui en ont souffert.
La RPD, association au service des familles de personnes disparues.
Fondée en 2003, Assistance et recherche de personnes disparues a pour but de venir en aide aux familles touchées par la disparition d'un proche. Les Alpes de Haute-Provence possèdent un correspondant qui a la mission de relais et se déplace avec son équipe de bénévoles sur le terrain. Philippe Terrasse, président de la RPD, présente l'association au micro de Chris Alessandri.
Alors, ARPD correspond à assistance et recherche de personnes disparues.
Alors, nous sommes donc au cœur de ces disparitions. Bon, elles sont référencées, toutes ces disparitions. Sont-elles nombreuses?
Alors, chaque année, environ 70 000 personnes disparaissent. Donc, ils sont disparus, c'est-à-dire, il y a 51 000 mineurs qui disparaissent. La plupart sont retrouvés, ce sont 97% de fugues, et un tiers sont retrouvés dans les 48 heures. Ensuite, il y a 18 000 majeurs qui sont 50 000 majeurs protégés. Protégés, c'est-à-dire, ils sont sous tutelle. Et ensuite, sur toutes ces personnes-là, il y en a 1000 par an, à peu près, qu'on ne retrouve jamais. Les disparitions, la plupart sont classées disparitions inquiétantes quand la personne qui veut signaler la disparition se rend à la gendarmerie ou au commissariat de police pour signaler la disparition. Ensuite, c'est à la diligence du fonctionnaire de police ou gendarme qui classe le dossier en disparition inquiétante ou non.
Et vous-même, donc, vous êtes ancien gendarme, hein, monsieur Terrasse. Vous-même, est-ce que vous avez dû faire face à de nombreuses disparitions, non seulement dans votre carrière, mais ensuite dans l'association dont vous êtes le président?
Alors, dans ma carrière, non, parce que je n'étais pas affecté dans ces services-là. Moi, j'ai été motard pendant 26 ans, et ensuite, j'étais le conducteur du commandant de groupement du 04, donc des Alpes d'Haute-Provence. Et ensuite, au niveau de l'association, depuis que je suis retraité, oui, on a eu beaucoup de dossiers en cours, et on a retrouvé, disons, depuis à peu près 2019, on a retrouvé 17 personnes vivantes, au niveau PACA, je parle, et 5 personnes décédées.
Est-ce qu'on sait pourquoi ces personnes disparaissent?
Alors, il y a la disparition volontaire qui se passe, la personne a envie de partir parce qu'elle se sent plus bien chez elle, elle a des problèmes, etc. Donc, du jour au lendemain, sans rien dire à personne, elle part. Ça, c'est la disparition volontaire. Ensuite, il peut y avoir une autre disparition volontaire qui peut être malheureusement le suicide ou autre. Et ensuite, il y a les disparitions involontaires.
Quand on parle de recherche dans l'intérêt des familles, qu'est-ce qu'on converge? On est dans le même sens de la recherche que vous.
Alors, malheureusement, la recherche dans l'intérêt des familles a été abrogée en 2013. c'est-à-dire qu'il n'y en a plus. Avant, la recherche d'un intérêt des familles, on allait le signaler à la gendarmerie ou à la police, et la personne était inscrite au fichier des personnes recherchées, qui, depuis 2013, ne se fait plus du tout. Il n'y a que les disparitions inquiétantes qui sont enregistrées au fichier des personnes recherchées.
Donc, une association que vous avez créée pour aider les enquêteurs et les familles.
La gendarmerie et la police fait le travail qu'ils doivent faire. Ensuite, nous, on vient après. On vient pas dans la suite immédiate. On vient vraiment après pour essayer, je dis bien pour essayer, de faire avancer les dossiers par des petites recherches qu'on peut trouver.
Alors voilà, les trouver. Comment les trouver? Parce qu'il y a tout un boulot d'investigation. De quelle façon est-ce qu'on fait face à cette disparition? De quelle façon est-ce qu'on peut enquêter quand on n'est pas officiellement enquêteur?
Mais c'est pas évident. On essaie de reprendre le dossier de A à Z. Avec le peu d'éléments qu'on a, parce que nous n'avons aucune procédure, que ça soit police ou gendarmerie ou les procédures de justice, on a absolument rien. On a que les informations des familles. Et souvent, on a les informations des voisins ou des amis qui sont peut-être plus à même de nous informer sur certains points que la famille ne souhaite pas parler.
Qui travaille dans cette association à vos côtés? Le profil des personnes que vous recrutez, entre guillemets, hein, peut-être?
Oui, entre guillemets, parce que je recrute pas. C'est les bénévoles qui, par l'intermédiaire, que ce soit des réseaux sociaux ou de la télévision ou de la presse, qui s'inscrivent chez nous. Mais la grosse part, c'est plutôt des services de police ou de gendarmerie, donc des retraités de la gendarmerie ou de la police. Ensuite, nous avons toutes sortes de personnes qui peuvent être des assistantes sociales, de la justice aussi. Nous avons, nous, dans le département, une criminologue. Voilà, donc c'est varié.
Les moyens techniques que vous avez à votre portée, quels sont-ils? Parce qu'il en faut des moyens techniques aussi.
Alors, ben, on a... le téléphone, l'ordinateur, et voilà, c'est tout.
Et votre expérience.
C'est tout. Voilà, tout à fait. Ça peut jouer.
Dans les différentes missions que vous abordez, est-ce que il vous est arrivé de relancer ce qu'on appelle les cold cases?
On essaie, mais il n'y a rien eu de particulier. Moi, ça fait depuis que je suis rentré dans l'association, depuis 2019, que je suis sur un dossier. Je ne sais pas si on peut appeler ça un cold case, mais depuis, cette personne est disparue depuis 2012, et je cherche, et voilà, depuis j'y suis.
Il y a vraiment des affaires qui vous tiennent à cœur.
Oui, oui, particulièrement celle-là. Bon, c'est une affaire comme une autre, mais étant donné que c'est un peu du département, oui, elle me tient un peu à cœur, voilà.
À quel moment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez des créneaux spécifiques ou ce sont des petites choses comme ça qui arrivent dans la journée, que vous notez, que des intuitions que vous avez?
C'est ça. On peut y travailler. Alors bon, tout dépend après des bénévoles, parce que nous avons des bénévoles qui sont encore en activité. Donc eux, par contre, ils ne peuvent peut-être que travailler le soir à partir de 18h quand ils sont rentrés. Moi, personnellement, qui suis à la retraite, c'est un peu au coup par coup.
Quand vous retrouvez une personne sur laquelle vous avez travaillé, qu'est-ce que vous éprouvez?
Ah ben, c'est une joie. Après, la joie peut être mesurée par rapport à la découverte de la personne. Si on découvre la personne vivante, bien sûr, on est ravi. Malheureusement, des fois, on en découvre des personnes décédées, au moins la famille peut faire entre guillemets le deuil.
Voilà. Il y a des personnes qui veulent garder l'anonymat.
J'ai eu des cas où j'ai retrouvé la personne, et j'ai eu son adresse, son téléphone, enfin tout, je sais où elle est, mais en discutant avec elle, elle ne veut absolument pas parler à sa famille, pour le moment. Alors dans ces cas-là, ben, on contacte la famille, lui dire voilà, la personne est en bonne santé.
Philippe Terrasse, plusieurs cordes à votre arc, vous êtes un passionné et vous êtes dans l'investigation et là vous travaillez sur des affaires.
Alors on a été saisi par les familles des disparus du Boscodon, qu'on peut appeler les disparus du Boscodon, c'est dans les Hautes-Alpes, du côté d'Embrun à Croix exactement. On a 3 familles qui nous ont saisis pour la disparition de leurs proches.
Et puis un autre sujet qui vous tient à cœur.
Alors oui, c'est la disparition de Kevin Fauvel, qui a disparu lui en avril 2012 du côté de Châteauneuf-Miravaille. Il faisait partie de la communauté écologique qui se trouve du côté de Janciac, au-dessus de Saint-Vincent, sur Jabron.
Comment vous contactez? Comment vous rencontrez également? Vous êtes positionné où?
Alors moi, je suis personnellement à Digne-les-Bains. Sinon, l'association, il suffit d'aller sur le site www.arpd.fr et ensuite, il y a tous les éléments dessus. On peut me joindre au 06 21 43 64 60 pour éventuellement nous contacter pour faire soit une recherche de personnes de proches, soit pour devenir bénévole.
Le pass tourisme de Manosque, 30 euros d'achat offert aux visiteurs.
Le dispositif avait été lancé en 2020 mais fut stoppé net par le confinement. Le principe est simple, pour un touriste hébergé au moins 2 nuits à Manosque, une carte de 30 euros d'achat auprès des commerçants locaux est remise à utiliser durant son séjour. Regroupant 19 commerces du centre-ville et 17 hébergeurs, le pass tourisme s'est écoulé à 92 exemplaires en octobre 2020, soit 2760 euros pour la commune et 4365 euros de retombées supplémentaires pour les commerçants. Mai, juin, puis septembre, octobre et novembre, cette année, le système est reconduit avec une enveloppe de 30 000 euros, soit un millier de passes tourisme. À la pertinence du dispositif s'allie l'ingénierie de la société Manoskin Neofid, qui a conçu une sorte de carte de crédit et une application pour la mise en œuvre. Camille Galtier, maire de Manosque, et Christophe Reboul, gérant de Neofid, précisent les tenants et aboutissants du pass. Camille Galtier, l'opération Pass Tourisme est reconduite. C'est une opération qui permet d'allier le commerce et le tourisme.
D'allier le commerce et le tourisme en favorisant l'accès à nos commerces pour toutes les personnes qui pourraient venir dans notre belle ville et d'accéder à notre commerce de proximité, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Là, on donne une vraie carotte de dire venez consommer dans notre centre-ville et en plus, vous allez bénéficier d'une carte cadeau. Donc, ce qui est plutôt intéressant aussi pour nos hébergeurs, parce que ça permet de dire à nos hébergeurs, passez une deuxième nuit à Manosque, vous verrez, il y a des vrais bénéfices. Et en plus, on a des belles boutiques à Manosque et on a des bons restaurants. Donc, autant venir en profiter. Et en plus, on fait un peu de circuit court en termes d'organisation, puisque c'est un opérateur manosquin qui s'en charge.
La ville de Manosque a mis 30 000 euros sur la table.
30 000 euros avec le partenaire qui est la CCI et l'office de tourisme aussi dans l'aménagement de ce pass.
Vous avez eu du mal à convaincre les commerçants et les hébergeurs de rentrer dans ce dispositif ?
Les hébergeurs ont tous répondu à 90% favorablement à cette opération. Les commerçants, maintenant on va les initier à cette opération. Ils sont 19 aujourd'hui. Je pense qu'ils seront le double, voire le triple dans quelques semaines parce que l'opération avait été initiée en fin d'année dernière et malheureusement, du fait du confinement, on n'avait pu aller plus loin.
À vos côtés, Christophe Reboul, qui est le gérant de Neofid, l'entreprise qui a créé cette carte particulière. Vous nous expliquez un petit peu ce dispositif technique.
Alors en fait, on en assure le fonctionnement technique. Et donc, la carte est distribuée chez l'hébergeur. La fiche du visiteur, du touriste, est saisie chez l'hébergeur, c'est-à-dire son nom, son prénom. Et la carte est vide, elle n'est pas chargée. Donc le touriste, la personne qui est hébergée, doit aller avec sa carte et un justificatif d'hébergement à l'office de tourisme en centre-ville. C'est l'office de tourisme qui charge la carte. Et une fois que la carte est chargée, le porteur de la carte peut ensuite aller utiliser ses 30 euros chez les commerçants participants, les partenaires participants. Voilà.
Il y a également un QR code qui est possible.
C'est un code barre en fait. Le QR code, c'est un code qui contient à la fois la manière dont utiliser le code et le code lui-même. En l'occurrence, le code suffit puisqu'il est directement utilisé par l'application qui est lancé chez le commerçant, soit sur son PC, soit sur son smartphone ou sa tablette. Donc simplement, le code barre qui est inscrit au dos de la carte est suffisant pour identifier la carte et justifier du montant.
La société Neofid est connue pour ses compétences techniques, mais aussi par son attache à Manosque. Vous êtes vous-même manosquin ?
Tout à fait. L'entreprise est manosquine et j'ai grandi dans le département. Je suis tout à fait attaché à mon pays, entre guillemets, et je suis ravi aussi qu'on nous laisse la possibilité, l'opportunité d'exprimer nos compétences dans le cadre de ce projet local.
Voilà. Une satisfaction pour le maire de Manosque.
Oui, parce qu'on dit souvent qu'il faut travailler local. Bon, le mieux, c'est les actes, les preuves d'amour, et je crois qu'on le fait bien, de bien belle manière avec M. Reboul.
C'est la fin de ce magazine. Merci François. À bientôt.
Merci Olivier. À la semaine prochaine. Thank you.